Ben, on est page 39, chapitre 5, Mishnah 8. C'est Eloudvari Mamrou, Mipne Darkeshalom. Donc, notre Mishnah va citer, on s'est un peu égaré du sujet de Gittin, donc du sujet des divorces. On a parlé ces derniers cours, beaucoup de choses que les Chachamim ont instaurées. Mipne Darkeshalom, d'accord, Mipne Darkeshalom, ça veut dire pour pouvoir vivre correctement. D'accord, des choses que les Chachamim ont ajoutées, qui n'étaient pas dans la route de la Torah, mais c'est des takanot, des choses qu'ils ont instaurées pour pouvoir vivre plus correctement. Donc, Ve'elu Dvarim, Amrum Ipne Darkeshalom. Voilà encore une série de choses que les Chachamim ont dit. Ipne Darkeshalom pour éviter les machloquettes. Pour la bonne entente. D'accord? Ouais. Le maintien de la paix entre les hommes, donc pour la bonne entente. Premièrement, oui, Darkeshalom, ça peut se traduire de plusieurs manières. Ça peut se traduire intérêt général, ça peut se traduire la paix entre les hommes, ça peut se traduire de plusieurs manières. Ça veut dire pour pas qu'il y ait d'histoire. Premièrement, ils ont instauré que Kohen Kore Rishon, que le Kohen lit le premier à la Torah. Donc quand on lit la Torah en tzibour, le Kohen lit en premier. Et Ve'acharav Lévi, et ensuite lira le Lévi. Ve'acharav Israël, et ensuite lira le Israël. Donc Israël, c'est le simple juif. Nous, on est catégorisés. D'accord? Alors, la Gemara explique qu'en vérité, c'est pas la Chachamim qui a instauré, puisque c'était déjà écrit dans la Torah. D'accord? C'était déjà écrit dans la Torah. C'était écrit que Vekidashto Ket Lechem et le Kecha ou Makriv, d'accord, c'est écrit qu'il faut sanctifier le Kohen, parce que le Kohen approche à Dieu, offre à Dieu offre le pain de ton Dieu. Donc c'est déjà écrit dans la Torah que le Kohen passe avant tout le monde. Alors qu'est-ce qu'ils ont instauré les Chachamim? Qu'est-ce qu'ils ont instauré les Chachamim? D'accord. En vérité, ils ont rien instauré. On savait déjà que le Kohen est toujours le premier. Il doit toujours démarrer en premier, il doit toujours faire le Birkat Hamazon en premier, il doit toujours prendre la meilleure part. D'accord? C'est le Kohen, c'est normal. C'est pas seulement un droit du Kohen. C'est un devoir que nous on a de donner au Kohen. D'accord? Mais écoutez bien, monsieur Kohen, ça c'était. Il y a un mais toujours.
Aussi, vous avez aussi des contraintes.
Mais il faut savoir que si on se mine à Torah, si le Kohen il veut donner du kavod à son maître, ou à une personne qui est plus grande que lui en sagesse, il a le droit. Ça veut dire que si le Kohen est à la synagogue, il est assis à sa place, et qu'il dit, j'ai pas envie de monter, laisser la place au rabbin. Halakhiquement parlant, normalement, il aurait le droit. Mais les Chachamim ont instauré, à qui il veut? Il veut faire le kavod à quelqu'un, il a le droit. Tout en restant assis à la synagogue. Mais les Chachamim, ils ont enlevé ce principe-là, ils ont enlevé ce concept-là, ils ont dit qu'on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que pour éviter les machloquettes, parce qu'après ils vont dire oui, monsieur Cohen il a fait le kavod à un tel et pas à un tel. Pour éviter les histoires, les Chachamim ont dit, tant que le Cohen est dans la salle, c'est lui qui monte. Il n'est pas là.
Moi je suis le rapport de monter devant moi.
Ah, ça c'est entre Cohen ça.
Ah, parce qu'il est
Cohen. Alors, Mipne Darkeshalom, donc pour pas être jaloux l'un de l'autre et pour pas arriver à la machloquette. Ça c'est une première chose qu'ils ont instaurée. Donc c'est une halakha, vous voyez, pour éviter la machloquette. Deuxième chose qu'ont instauré les Chachamim. Et là, on va lâcher un peu les Kohanim. Mervim de Baït Yashan. On peut faire un Hérouv, d'accord? Donc, on doit faire le Hérouv, pardon, de Baït Yashan dans une maison qui est ancienne. Alors, ça veut dire quoi? J'explique ce que ça veut dire. Une maison qui a, donc, une cour, pardon, qui a plusieurs voisins. Une cour mitoyenne, une cour mitoyenne pour plusieurs maisons. Le roi Salomon avait instauré qu'on n'a pas le droit de déplacer, d'accord, et de porter dans la cour, sauf si on a fait le Hérouv. C'est un Hérouv particulier qu'on appelle le Hérouv Hatserot. Hérouvé Hatserot. Bon, c'est quoi ce Hérouvé Hatserot? C'est qu'on va prendre un morceau de pain, parce que le roi Salomon s'était rendu compte que les gens portaient dans les cours mitoyennes, et les cours mitoyennes étaient des fois très grandes, et du coup, ils ont oublié qu'il fallait pas porter, et après les gens ils sortaient dans la rue, ils portaient aussi. Parce qu'ils n'ont pas compris que la cour c'est spéciale parce qu'elle appartient à tous les habitants. D'accord? La cour de la cité, elle appartient à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a instauré? Il a instauré le concept du Hérouvé Hatserot. Il a dit que dorénavant, si on veut porter dans la cour, il faut qu'on fasse le hérouv d'une cour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les habitants vont s'associer sur un aliment. En général, on le fait sur un morceau de pain ou sur la matzah, parce que c'est un aliment qui peut tenir un an sans problème, parce que c'est quelque chose qui doit rester longtemps. Il doit rester un an. On le fait une fois par an. Donc on prend par exemple, aujourd'hui on le fait sur la matzah. D'accord, je sais aujourd'hui en Israël, en France, les gens en général font sur la matzah, parce que la matzah, vous revenez un an plus tard, elle est toujours là, sauf si des souris sont passées, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette matza? On s'associe tous les habitants de la cour, ou même d'un immeuble, d'accord? Pareil, les escaliers, la zone d'escalier d'un immeuble, c'est la même chose. C'est considéré comme une cour, c'est considéré comme une zone qui appartient à tout le monde. Ils vont s'associer. Ça veut dire, par exemple, si le paquet de matza coûte 10 euros, chacun il va donner 1 euro. on va s'associer, on va acheter.
Il faut que tout le monde soit...
Oui, tout le monde, obligé. Alors maintenant, après, attention, après on peut donner après il y a une technique qu'on peut dire, c'est par exemple, moi j'achète le paquet, d'accord, mais je demande à chacun, je lui dis, est-ce que tu veux que je te donne le mérite de participer dans mon paquet? Ça veut dire que je fais comme si c'est toi qui as payé, mais c'est moi qui ai payé pour toi. Ça peut jouer avec ça. Mais il faut qu'on soit tous associés, que ce morceau de pain, que cet aliment nous appartient à tous.
Moi je vois bien, mais qu'est-ce qui nous empêche,
c'est des belles autres choses.
Touristes, quand on va à Jérusalem, par exemple, de pousser une poussette alors qu'on n'a rien fait là.
Jérusalem, c'est autre chose. Jérusalem, c'est
Jérusalem,
pas.
Ou bien Jérusalem, un quartier de.
Jérusalem, c'est pas le Hérouv.
De Haïfa ou. À un endroit où il y a un Hérouv comme ça, mais nous on ne sait pas qui c'est. On est venu par hasard.
Jérusalem, c'est pas le Hérouvé Hatzeroth. Hérouvé Hatzeroth, c'est un Hérouv particulier pour une cour. Un Hérouv qui va faire dans une cour ou pour une cage d'escalier, ça s'appelle un Hérouv Echatzeron. Le Hérouv que vous parlez, c'est ce qu'on appelle le Hérouv Troumine. Ça veut dire que c'est le Hérouv de la ville, c'est autre chose. C'est deux minimes complètement différents.
Bon, un voisin qui vient chez moi, je l'ai invité, et puis à un moment je lui dis, je t'en prie, le juif qui est au rez-de-chaussée là, il va pas ciseaux.
Il faut s'associer.
Lui, c'est pas jamais associé, je l'ai invité à venir chez moi, c'est tout.
D'accord, non, mais une fois qu'on a fait le Hérouv, après tout le monde peut porter. D'accord.
Ah, oui. Même ceux qui n'ont pas participé.
Bien sûr, ah oui, sûr. D'accord. Donc, alors, c'est quoi le problème maintenant qu'on a avec le Hérouv? Ça, c'est rien de nouveau, les Khamis n'ont pas instauré, mais plus tard que Shalom. C'est quoi le problème qu'on a avec le Hérouv? Le problème qu'on a avec le Hérouv, c'est qu'imaginez-vous qu'on est dans une cour, d'accord, et que l'année dernière, j'ai dit qu'on le fait une fois par an. Les gens, en général, le font à proximité de Pessah, aux alentours de Pessah. Donc, imaginez-vous que l'année dernière, on a mis le paquet de matzah chez moi à la maison. Je sais pas, si vous irez à la rue des Rosiers, vous rentrez au numéro 17 de la rue des Rosiers, et que donc vous rentrez dans un immeuble là-bas, vous verrez quand vous rentrez à la synagogue, vous voyez toujours en haut de la bibliothèque, il y a un paquet de matzah qui est posé. Toute l'année. C'est le paquet de. Tout le monde sait, c'est le paquet de matzah du Hérouv.
Il y en a.
Hein?
Si,
bon, là c'est pas le Hérouv.
Oui, on a rien apporté,
c'est le paquet de matzah du Hérouv. Personne touche tout. Et on le change une fois par an. Très bien. Alors, imaginez-vous que l'année dernière, on a mis le paquet de matzah chez moi. On a mis le paquet de matzah chez moi. Et là, vient donc l'année prochaine, donc aujourd'hui, on doit renouveler le Hérouv. Et bon, on va se dire, tu sais quoi, on va pas mettre le Hérouv chez toi, on va le mettre dans une autre maison. On peut le mettre où on veut. Il suffit de le mettre dans une des maisons de la cour. Le problème est quoi, hein? On a plusieurs problèmes si on change de maison. Si on change de maison, d'accord, la Gemara, comme la Gemara explique, les gens peuvent se douter, ceux qui vont rentrer dans chez moi à la maison, qui vont voir qu'il n'y a plus le Hérouv, qu'il n'y a plus le paquet de matzah, ils vont dire, ah, ça veut dire que dans la cour, il n'y a plus les roues, et les gens, ils portent quand même, c'est très grave ce qu'ils font. Donc, pour éviter que les gens parlent, et comment on évite à chaque fois que les gens parlent, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Khamim? Les Khamim, ils ont dit, une fois qu'on a décidé d'une maison pour faire le roues, il faut laisser le paquet là-bas toujours, ça ne bouge plus. Ça s'appelle le Bayit Yashan. D'accord? Tosfot, il rajoute encore une autre raison, il dit, les gens peuvent dire aussi, le roues a été renouvelé, a été reconduit, et on l'a mis chez moi à la maison, comme l'année dernière, et je l'ai mangé. Et les gens ils parlent. Ouais, malheureusement les gens ils parlent. Donc pour éviter que les gens ils parlent,
les
d'accord.
Les gens, c'est nous, hein.
C'est nous, bien sûr c'est nous. D'accord. Alors, donc qu'est-ce qu'on fait? Pour éviter ce problème-là, qu'est-ce qu'on a dit? Mearvin de Bayit Yashan. Mearvin de Bayit Yashan, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on fait le Hérouv dans une maison ancienne. Ça veut dire qu'on prend la maison dans laquelle on place le Hérouv dans la maison dans laquelle il a été placé l'année dernière. Ça c'est ce qu'on a expliqué.
Si quelqu'un a besoin de à manger mardi.
Attends, on touche pas.
Le balabait, il s'aperçoit qu'on a mangé le... Il a eu besoin de ce paquet de matzot. Il l'a mangé, il peut aller racheter un autre et le mettre à la place?
Non. C'est quoi?
Il y avait rien à manger à la maison et il a mangé le paquet de matzot.
Il n'a pas le droit, on touche pas, monsieur, excusez-moi. On touche pas, c'est à sourd. Le Hérouv, on touche pas. C'est un bien qui appartient à tout le monde, il faut demander la permission à toute la commune.
Il a été volé. Allez.
Alors on en refait un autre.
On peut pas le changer stam comme ça.
Non, change pas, on touche pas.
On est obligé de refaire la cérémonie.
Ça appartient, c'est pas une cérémonie, ça appartient à tout le monde.
Oui.
Voilà. Alors maintenant, n'oubliez pas autre chose. Le Maïmoni nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit que la personne qui garde le Hérouv chez lui à la maison, d'accord? Donc imaginez-vous que c'est moi, j'habite dans une cour. Enfin, ma maison donne sur une cour. On a 10 maisons qui donnent sur une cour et je garde chez moi le Hérouv. La personne qui garde le Hérouv chez elle n'a pas besoin de participer à l'achat du Hérouv.
Je vais le faire, ça.
D'accord? Bon, il va gagner 1 euro. Il n'y a pas besoin, parce qu'on dit, comme il le garde chez lui, il n'y a pas besoin de payer. Donc c'est peut-être ça aussi, l'intérêt qui dit, moi je voulais payer l'année chez moi, gardez-le chez moi aussi cette année.
Une question qui est arrivée à mon beau-frère, je crois qu'il avait demandé au rab, et je ne sais pas s'il a pu lui trancher le problème, ils ont deux pavillons, Et il y a une clôture de séparation.
Ouais.
Et le problème, c'est que il peut pas passer. Par exemple, bon, ils sont amis, mais si Shabbat, il veut lui passer quelque chose, il n'a pas le droit.
Il n'a pas le droit, non.
Est-ce qu'il peut faire une forme de hérouve parce que là, c'est pas commun. Ils ont non, chacun leur. Pour pouvoir.
Et qu'est-ce qu'il a dit le Rav?
Ils ont pas réussi à trancher, je crois.
Faire un trou dans sa muraille.
C'est difficile à.
Il fait un passe-plat. Ou une porte.
La solution que j'aurais donnée. C'est de prendre un espace de 1 mètre par exemple, ou de 50 cm, donc entre les deux maisons, ouais. D'accord, et de faire par contrat, de décider qu'on s'associe sur cette partie-là. Ouais. Donc du coup après c'est fini, on ne porte plus, parce que quand tu es dans la cour de l'autre côté, je suis chez mon ami. Et quand je suis chez moi. Comment je fais le transfert? Par ces 50 cm-là. Si on le fait par contrat, on dit que ces 50 cm nous appartiennent à nous dès maintenant.
C'est vrai que je pose la question pour savoir.
Je sais pas comment il a fait, mais à mon avis, il faut demander à un rab. Il y a des rabbinis spécialisés pour ça, mais à mon avis, qu'est-ce que tu penses, Julien? Juridiquement, ça serait une solution, ça, non? T'as compris la solution que je voulais?
Faire une partie commune, faire en sorte
de créer une partie commune. Créer une partie commune entre les deux de 50 cm. Comme ça, après, cette partie est à nous deux, donc c'est la partie qui permet le transfert. Mais quand je suis dans le reste de la cour, ben je suis ou chez moi ou chez toi.
Je crois qu'il peut pas refaire une deuxième cloison.
Mais non, pas cloison. Je parle.
C'était déjà un mur.
D'accord. On peut s'asseoir sur le mur, par exemple.
Ouais. Pas un mur, c'est juste une.
Donc on va chez un notaire, enfin, ouais. on fait ça avec un contrat, on décide que le mur nous appartient à nous deux maintenant.
Même
ça vient partir.
Voilà, notaire. Ouais. Bon.
Et s'il y a un des habitants qui n'est pas juif?
Ah, ça c'est autre chose. Ah, ça, c'est autre chose. C'est plus compliqué ça.
Une bonne question.
Ça dépend dans quelle ville, ça dépend en Israël, ça c'est une autre
bonne
question. Ouais, c'est une bonne question.
Tu sais, hein, c'est une question
très. Pour répondre à ta question en gros, rapidement, le hérouv est beaucoup plus simple quand il y a un non-juif qui habite.
Il n'y a pas besoin de le mettre dedans.
Si, il y a besoin, il faut faire. Mais le hérouv est beaucoup plus simple.
C'est compliqué, c'est lorsqu'il y a un autre juif et qu'il ne veut pas
faire. Le plus compliqué, c'est quand il n'y a que des juifs. Voilà, comme il dit en Israël, ce qui arrive des fois, c'est que au début, il n'y a pas le hérouve et le gars, il dit, moi, je veux pas de hérouve. Anti-religieux.
Allez, tu es bloqué.
Ah, parce qu'ils doivent tous accepter.
Bien sûr.
C'est rien qui n'accepte pas et ça peut passer.
Bor chez Oukarov Lama. Bien sûr. Bor chez Oukarov Lama. Continue la Mishnah. Un puits chez Oukarov Lama qui est prêt, d'accord, Lama. Alors, c'est quoi Lama? Lama, c'est un passage d'eau. Alors, à l'époque, on irriguait les champs avec un passage d'eau. Donc il y avait un puits, d'accord? Il y avait un puits et ce puits là donc on s'arrangeait pour qu'il se dirigeait vers les champs. Maintenant les gens avaient un problème. C'est quoi le problème qu'avaient les gens? C'est que des fois il y avait moins d'eau qui sortait du puits. Vous savez, il y avait beaucoup de phénomènes, beaucoup de facteurs. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils stockaient de l'eau, ça veut dire qu'ils n'utilisaient pas que l'eau, ils n'utilisaient pas le conduit que pour amener de l'eau dans leur champ. À part ça, ils faisaient un trou à côté de leur champ pour stocker de l'eau, au cas où, on ne sait jamais. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on nous dit ici, écoutez bien ce qu'on dit ici, imaginez-vous que on a une source qui passe par chez moi et qui arrive chez M. Bismuth. Donc elle passe par chez moi et on arrive chez M. Bismuth. Très bien. Et M. Bismuth, il a été intelligent, au prochain comme d'habitude. Dès qu'il s'est dit peut-être, on sait jamais ce qui peut arriver, etc. Donc il a fait un trou à côté de son champ pour stocker de l'eau au cas où. Moi j'ai pas fait de trou, mais attention, n'oubliez pas ce que je dis. L'eau passe d'abord par chez moi avant d'arriver chez lui. Maintenant un jour, moi je me dis tiens, j'ai vu ça c'est Monsieur Bismuth, je dis moi aussi je voudrais faire ça. Donc je vais faire un trou. Et là il y a Monsieur Bismuth qui vient, qui se plaint, il dit non, je suis pas d'accord. Moi j'étais avant toi. Avant toi, à cause que tu fais le trou, l'eau va venir plus doucement chez moi, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? D'accord. Alors qu'est-ce qu'il dira le Bedi? Qu'est-ce qu'il dira le Bedi? Il est là, Mendy?
La préséance.
On va finir dans un quart d'heure, mais on peut fermer ça si vous voulez. Monsieur Bis, si vous voulez leur fermer le. Comme ça écrit de l'autre côté.
Écouter 10 minutes après ils font la fila.
Non, ils doivent partir.
Non, mais tu sais, le temps qu'ils vont mettre les filimes, le temps qu'ils vont arriver au Sefer Torah, nous on va avoir fini.
Bien sûr.
Ouais,
pour pas les déranger, pour qu'ils puissent tranquillement. À quelle heure vous devez prier?
D'accord.
Et vous allez faire minyan? D'accord, ok. Bon, c'est bon alors. Alors, Bor chez Okarov le Hama. Donc, un puits qui est proche la Hama. Hama, comment il est traduit ici? Passage d'eau? Canal. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont instauré les Chachamim? Mitmale Rishon, Mipne Darke Shalom. Ah. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'ils ont instauré les Chachamim? Mishum Darke Shalom, ils ont dit que premier venu, enfin pas premier venu, premier servi, le plus proche, plus on est proche du canal, et plus on passe avant. Ça veut dire que même si je fais le trou après, puisque je suis plus proche du canal, je passe avant. Donc les Chachamim m'ont instauré, c'est la règle qu'ils ont instaurée. La règle qu'ils ont instaurée pour éviter les histoires. Parce que peut-être que M. Bismuth l'avait fait avant moi et que moi j'ai pas eu le temps. Ils ont instauré la règle, ils ont dit, celui qui est plus près du canal passe avant, même s'il fait son trou 10 ans après l'autre. Ça c'est un troisième point. Quatrième point qu'ils ont instauré. Metsudot, Raya, Veofot, Vedagim. Alors, Metsudot, Raya. Donc Metsudot c'est des filets. Raya, pour attraper des Raya, ça veut dire des animaux sauvages. D'accord, par exemple des cerfs ou ce que vous voulez. Veofot, et donc pour attraper des oiseaux. Vedagim et les poissons. Alors, de quel cas on parle ici? On parle d'un filet qui n'a pas ce qu'on appelle un bête qui boule. Ça veut dire un filet qui n'a pas de réceptacle. Donc, un filet standard. Un filet, c'est pas. Il y a plusieurs types de filets, mais il y a des filets qui ne sont pas réceptacles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la forme d'un réceptacle. Or, juridiquement, normalement, halakhiquement parlant, on ne peut acquérir quelque chose que lorsqu'il est rentré dans un réceptacle qui m'appartient. Ça veut dire que si mon filet a une forme de réceptacle et il y a un poisson qui vient, là le poisson m'appartient. Mais s'il n'a pas la forme de réceptacle, d'accord, normalement, juridiquement, il ne m'appartient pas. Quelqu'un, il peut venir, il me le prend, sans état d'âme, il n'a pas de compte à me rendre. Maintenant les Chachamim m'ont instauré, d'accord, ils ont instauré que Yeshbal Mishum Gezel. Ils ont instauré que, on n'en finit plus sinon. D'accord, parce que les filets, il y a plusieurs types de filets, il y a des filets qui sont plus souples et qui ne forment pas un récipient. Alors qu'est-ce qu'on fait?
Il y a des filets qui cachent.
Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? C'est pour ça que les Chachamim m'ont instauré, ils ont dit que, bien que halakhiquement parlant, c'est pas le cas, mais ils ont instauré, on a expliqué pourquoi, en passant dans la Gemara qu'on fait dimanche matin, on a expliqué que les Chachamim ont la possibilité de déposséder qui ils veulent de quoi que ce soit, parce que Hefker Beddin Hefker, d'accord, ça c'était le principe qu'on avait expliqué. Donc ils ont décidé que on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de prendre l'objet à quelqu'un, donc l'animal ou le poisson, une fois qu'il a été pris dans le filet, même si le filet n'était pas assez bon juridiquement pour être considéré comme un bête qui boule, ça veut dire pour être considéré comme un domaine d'une personne. Parce que sinon, vous avez compris, on n'en finit plus. Rabbi Osomer Gezel Gamour. Rabbi aussi, il va plus loin que ça. Il dit, c'est pas El Khamim qui a instauré, qu'on considère comme si c'est du vol. Rabbi aussi, il dit, d'après moi, c'est une forme de vol, c'est vraiment du vol. Pourquoi? Parce que lui, Rabbi aussi, il pense, d'accord? Rabbi aussi pense que c'est pas simplement une takana que Chachamim a instauré. Lui dit c'est vraiment du vrai gezel, celui qui prend quelque chose d'un filet d'une autre personne, c'est vraiment du vol, il a volé. On considère que la personne a déjà acquéri. Donc c'est une marloquette, acquis. Autre chose qu'on a instauré, Metsiat Reresh Otev Katan. Donc cinquième chose qu'ils ont instauré, Metsiat Reresh Otev Katan, une trouvaille d'un sourd-muet, d'un fou ou d'un enfant. Normalement, halakhiquement parlant, ce qu'ils ont trouvé, ça leur appartient pas. Puisqu'ils n'ont pas de date, d'accord, ils n'ont pas de compréhension, ils n'ont pas de connaissance. Donc on dit que toutes leurs transactions ne valent rien. Maintenant imaginez-vous un katan, un enfant qui trouve quelque chose dans la rue. Il trouve un billet de 100 euros par terre. Et moi je vois le petit qui a trouvé un billet de 100 euros, je lui dis toi t'as un katan, halakhiquement parlant, tu peux pas t'approprier quoi que ce soit, donne-moi les 100 euros. Alors il faut savoir que normalement on aurait pu. Parce qu'il n'a pas d'acquisition, un katan ne peut pas faire d'acquisition. La seule acquisition que peut faire un katan, et encore, c'est s'il hérite. Et encore, proche dit encore, parce que le Bedin devra nommer un tuteur pour s'occuper. Il peut faire aucune acquisition. Alors qu'est-ce qu'il fait le katan? On s'imagine là, le katan qui trouve quelque chose, tout le monde lui arrache. Les Chachamim ont instauré que Yesh Ben Mishum Gazel. Ils ont instauré que Yesh Ben Mishum Gazel, qu'on ne touche pas quand même à ce qu'un enfant ou un sourd-muet ou un fou a trouvé. Pourquoi? Parce que Mishum Darke Shalom, sinon on n'en finit plus. Parce que c'est quoi le problème, comme la Gemara explique? La Gemara explique c'est que quand on prend quelque chose à un enfant, c'est pas que l'enfant qu'on se prend sur la tête. C'est les parents de l'enfant qui vont dire ouais, t'es venu, t'as volé 100 euros à mon fils, tu vas voir ce que je vais te faire. D'accord?
Mais on peut comprendre pour le fou ou le enfant, mais pour le sourd-muet, je comprends pas.
Pour
le sourd-muet, je comprends pas. Le débile mental, on peut comprendre.
On considère, halakhiquement parlant, le sourd-muet, on considère qu'il n'est pas capable de communiquer. Donc, puisqu'il n'est pas capable de communiquer.
Mais maintenant, avec.
Oui, alors dans ce cas-là, ok, dans ce cas-là, il peut parler, c'est une forme de parole. S'il arrive à parler d'un. Si on a trouvé des méthodes de communication, c'est une chose. Je ne connais pas.
Je ne connais pas la notion de sourd-muet là.
C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je connais personnellement des sourd-muets qui va au Hachem, qui ont une situation, qui communiquent, etc.
Bon. Quelqu'un qui n'est ni sourd-muet, ni truc, etc., qui trouve quelque chose.
C'est nous ça.
Sûr. Dans les, si on suit les règles. Parce que là, c'est trois cas dans lesquels trois personnes que normalement ils ne peuvent rien s'approprier. Ils peuvent pas faire de transaction. Mais on a instauré qu'ils peuvent quand même garder ce qu'ils ont trouvé. On peut pas leur enlever. Pourquoi? Shum Darke Shalom.
Si c'est une femme qui trouve.
Appartient à son mari. Alors, Rabbi Yossé Omer, Gazelle Gamour. Non, votre chien c'est différent. Si vous en avez. Parce que le chien, c'est le chien, c'est considéré comme le domaine de quelqu'un. C'est différent le chien.
C'est bien, moi.
C'est mon chien.
Oui, donc le chien, c'est votre domaine.
Exactement.
Ça appartient à toi.
Donc si votre chien a pris une balle.
C'est le prolongement.
Peut-être qu'il est parti le voler.
Ah, d'accord.
Il vient avec un lingot dans la bouche.
Eh ben, on le prend, puis c'est tout.
Tu vas en chercher un autre.
Je le prends.
Alors, autre chose qu'il a instauré. Rabbi Yossé Omer, Gazelle Gamour. Rabbi Yossé dit que non. Rabbi Yossé dit que c'est pas simplement quelque chose. Donc la même marque. Rabbi Yossé dit que c'est pas quelque chose que les Rahamim ont instauré, que c'est du Gazelle. Il dit non, c'est du Gazelle vraiment. C'est un vrai vol. Donc c'est une marque. Autre, donc sixième cas. Ani Amenakev Rosh Hazait. Ah, ça c'est un cas intéressant. Vous avez un pauvre, d'accord, qui est en train de frapper avec un bâton en haut d'un olivier.
Gaffe.
Alors pourquoi? Ils appellent ça gaffé.
Ouais.
D'accord.
Je sais pas si c'est
donc pourquoi? Pourquoi on frappe, on donne des coups pour que les olives tombent.
Ouais.
Et donc bon, il faut monter sur l'arbre pour le faire. Donc lui, il monte sur l'arbre, et il frappe, il gaffe, d'accord. Les olives elles tombent et il y en a un qui passe en bas, il voit plusieurs kilos d'olives et il les prend. D'accord. Alarchiquement parlant, est-ce qu'on peut lui dire quelque chose? Normalement non. Parce qu'il ne s'était pas approprié, le pauvre qui est en haut, d'accord, le pauvre qui est en haut ne s'était pas encore approprié. Il ne les a pas pris dans la main et après il les a fait tomber. Il a donné un coup.
Bon. Il a envoyé des dégâts à quelqu'un.
Non, on parle ici de ce qu'on laisse sur l'arbre, public. Pour le pauvre. Il y a toujours une partie dans l'arbre qu'on laisse pour le pauvre. D'accord. Et le problème c'est qu'entre les pauvres, il y a des concurrences, d'accord. Il y a des pauvres qui viennent. Vous rappelez, on avait étudié un Gmarba Métia. Une fois que les pauvres sont passés, alors ils se disent, certainement les pauvres de cette ville sont déjà passés. Il y a des techniques, hein, c'est des professionnels, comme on voit chez les schnorrères, vous savez, ils ont un don.
C'est avant toi, c'est mon domaine.
Dès qu'il y a une synagogue où il y a un schnorrère qui est venu, qui a bien ramassé de l'argent, je peux vous garantir, d'accord. Tout le monde vient, il se passe le mot, c'est comme ça, c'est des réseaux. Donc, Ani Amenakev Berosh Hazait. Un pauvre, donc qui gaffe Berosh Hazait. Comment il traduit en français ici?
Golé.
Gaffe, là, il dit qu'il se coule à un arbre. Il y a des
bon. Berosh Hazait, en haut de l'olivier. Normalement, d'accord, donc, alors, pourquoi il irait? Donc, tu as posé ma question, pourquoi il irait sur l'olivier? Alors, il faut savoir qu'il y a deux raisons pour en irait chercher sur l'olivier. Il y a ou bien PA, ou bien Shirha. C'est ou bien le coin qu'on doit laisser pour les pauvres. Dans l'arbre, ou bien Shira, c'est un oubli. Ça veut dire tout ce qu'on a, il faut savoir quelque chose. D'accord? Que tout ce qu'on a oublié dans la récolte du champ, c'est-à-dire je fais la récolte du champ, d'accord? Je fais la récolte du champ, je récolte, et j'arrive chez moi à la maison et je réalise que j'ai oublié une tonne de, j'ai oublié même une tonne, d'accord, dans le champ. J'ai pas le droit de retourner là et la chercher.
C'est donc après d'accord récolte, ça.
Après récolte. Il y a PA, il y a Shira. PA, c'est ce qu'on laisse de côté, c'est-à-dire que je suis obligé de laisser de côté. D'accord, il y a un certain pourcentage. Et Shira, c'est ce qu'on a oublié. Et ça arrive, il y a toujours des oublis. Alors, qu'est-ce qu'ils ont instauré? Ils ont instauré que Yesh Ben Mishum Gazelle. Tout ce qui est en dessous de lui, c'est-à-dire il frappe sur l'arbre et il y a des olives qui sont tombées. Toutes les olives qui sont en dessous, Yesh Ben Mishum Gazelle, ça veut dire un autre pauvre n'a pas le droit de passer pour les proches, c'est considéré comme du vol. Une pièce d'Arkeshem, là on comprend, hein, parce que sinon on n'en finit plus. Et on va avoir des batailles entre les pauvres et bon. D'accord? Donc on a évité tout ça. Rabbi Yossé Omer, Gazelle Gamour, Rabbi Yossé dit, d'après lui, c'est même pas quelque chose que les Rachamim auraient instauré, mais ça serait un vrai gazelle. Ça serait une vraie. Donc
voilà, pareil, même attends, parce qu'il y a peut-être un jeu de mots là. Peut-être qu'il dit, c'est du vol de taper sur cet arbre.
Non, Gazelle Gamour, c'est le même type de marloquette. Alors, je continue, et je finis la Mishnah. En nemachin, beyad anie goyim, mipne, donc baleket ou bashicha ou bapea, mipne d'arke shalom. Normalement, qui doit se servir, donc de tous ces bonus qu'il y a dans les champs, comme le leket, le shicha, la pea, donc c'est tous des bonus qu'il y a dans les champs. Ce qu'on a oublié, ce qu'on met dans le coin, etc. Qui c'est qui doit ramasser tout ça? C'est pour les juifs. Mais s'il y a des goyim qui viennent, halakhiquement parlant, on peut les virer.
Mais là, on
aurait pu. Mais venez d'Arke Shalom, ça ne se fait pas. D'accord? Ça ne se fait pas parce qu'après ils vont dire oui, ils nous ont renvoyés, nous aussi on va les renvoyer, on va savoir ce qu'ils vont raconter. D'accord? Donc, pour éviter ces problèmes-là, d'accord? Donc on a évité, on dit que les goyim peuvent se servir comme pour les juifs. même des droits qui appartiennent apparemment aux juifs. C'est-à-dire même une zaka qui était dédiée pour les juifs, ça, ce que ça veut dire. Une zaka qui est dédiée pour les juifs, d'accord, on peut donner à des non-juifs. Et de là, la Gemara a appris beaucoup de choses. La Gemara a appris que même si on a une caisse pour nourrir des juifs, et qu'il y a un non-juif qui vient et qui te dit j'ai faim, il faut lui donner à manger. Non seulement on peut, mais il faut lui donner à manger. Pareil, si je vais rendre visite à des malades, d'accord, la Gemara donne l'exemple. Donc la mitzvah de Bigur Cholim, c'est rendre visite à un malade juif. Et qu'en passant, je vois des malades non-juifs, c'est une mitzvah de visiter, de rendre visite à ces malades aussi, mais pnei d'arkei shalom, par respect pour les autres. Pareil aussi, autre chose que la Gemara dit, de la même manière qu'on a une mitzvah de s'occuper de l'enterrement d'un juif, s'il n'y a personne pour s'en occuper, on a la mitzvah de s'en occuper, normalement on n'a pas la mitzvah de s'occuper de l'enterrement d'un non-juif, c'est pas une mitzvah, mais on le fait quand même, pnei d'arkei shalom, pour d'arkei shalom, ça veut dire pour la bonne entente, pour pas qu'il y ait des problèmes avec les goyim. Vous voyez comment toutes les lois que les Chachamim ont instaurées pour éviter des problèmes, qu'on aurait des problèmes avec les goyim. Enfin, je conclue avec la Mishnah 7, 9e Mishnah, pour finir le chapitre 5. Mash Elet, Isha, la Chaverta, donc encore on finit dans la série de choses qui ont été instaurées, Mipne Darke Shalom, pour la bonne entente. Mash Elet, Isha, la Chaverta, Achashuda al-Shevit. Une femme peut prêter à son ami, qui est Chashuda al-Shevit, ça veut dire qui est suspecte sur la 7e année. Vous savez que la 7e année, on n'a pas le droit de manger les fruits, d'accord ? On n'a pas le droit de manger, de récolter les fruits qui poussent sauvagement dans le champ. On n'a pas le droit de les prendre, d'accord, de se les approprier. Bon, alors, si on a une femme, s'il y a une femme, d'accord, qui est suspecte, on pense que cette femme-là se sert, pendant la 7e année, des fruits qui n'aura pas le droit de se servir. Alors, elle a une amie, et cette amie a envie de lui prêter, Nafa, un tamis, ou Kvara, d'accord. Ou Kvara, donc c'est un... Kvara, c'est un type de tamis... Est-ce qu'il y a une traduction en français? C'est un type de tamis plus gros.
Un van,
voilà. D'accord. Verechaim et une meule, Vetanour et un four. Bien qu'elle sait que certainement qu'elle va utiliser ces outils-là, elle va utiliser ces accessoires pour travailler de la farine ou de la récolte qui a été récoltée de manière assourde. Est-ce qu'on a le droit de prêter ou pas? On dit on a le droit de prêter. Et tu poses pas de questions. Ça, c'est un des grands principes qu'on apprend quand on ramène les gens Bitshuva. Que toi, c'est pas ton problème ce qu'elle fait à la maison. Tu l'as vu récolter, tu l'as vu faire avec les fruits de juif, tu as vu la récolte de juif, tu l'as pas vu. Toi, tu lui prêtes. D'accord? Ne soupçonne pas. Elle fait ce qu'elle veut, c'est ça entre elle et Dieu. Toi, tu lui prêtes, ne dis pas oui, mais je vais l'aider à faire une avéra. Non. Toi, tu lui prêtes, c'est pas ton problème. Avalmé, l'otavor velotitranima. Par contre, il faut pas aller pour s'amuser avec elle. Faut pas pousser non plus. Parce que là, si tu soupçonnes qu'elle fait une avéra, l'aider activement à faire une avéra, c'est assourd. Voilà, la Gemara explique la différence. La Gemara dit que quand on a un soupçon sur quelqu'un qui fait une avéra, on ne peut pas l'aider activement. D'accord?
Mais
l'aider, passivement, d'accord? Ça veut dire que tu es par derrière, tu lui prêtes, et peut-être qu'il va utiliser, on a le droit. Normalement, on n'aurait pas dû avoir le droit. Normalement, ça ne devrait pas être permis. Pourquoi ça a été permis? Mais peut-être d'arquer shalom. Imaginez-vous, on dit, oui, vous n'êtes pas religieux, je ne vous prête pas. Pour éviter ces marques locales, les Chachamim m'ont dit, on prête, mais il ne faut pas aider activement. Échet travers, mach elet, l'échet amaharet. Donc, échet travers. La femme d'un chaver. C'est quoi un chaver? Un chaver, c'est une définition dans la Gemara. Non, c'est pas un chacham. C'est une femme qui, c'est une famille qu'on sait qui font attention à la cacheroute chez eux à la maison. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut manger chez eux. Donc, une bonne famille, Baruch Hashem, qui respecte la cacheroute. Donc, échet travers. Mach elet, l'échet amaharet. Donc, une femme d'un chaver. Qui fait attention donc au maaser, à la terouma, etc. Donc une famille chez qui on peut manger. Aujourd'hui on aurait dit une famille chez qui on peut manger. Mash elet l'échet amaharet, elle peut prêter à une femme d'un amaharet. Alors le amaharet, c'est en général une famille qui connaît la lachot, mais qui sont pas spécialement ignorants, mais qui sont un peu, qui font pas attention à tout. D'accord? Par exemple, vont peut-être faire attention au maaser, ils vont pas faire attention à l'impureté. Donc c'était des problèmes à l'époque tout ça. Donc elle peut lui prêter nafa ou kvara. Elle peut lui prêter un tamis, une vanne et également aussi, comme on l'a dit, un four et une meule. Pourquoi? D'accord? Parce que le Tiferet Israël explique, il dit parce que tous ces éléments-là, d'accord? Tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on considère que c'est des éléments qui ne prennent pas vraiment l'impureté. Et que même s'ils ont pris l'impureté, on pourra les purifier par la suite. Alors le problème qu'on a, c'est comme ça. C'est qu'imaginez-vous que vous avez une femme, une famille dans laquelle on fait attention à l'impureté, à ne pas rendre impure la nourriture. Quand elle va prêter ce tamis à une amie à elle, cette amie risque de rendre impur le tamis. Et donc après, elle devra le repurifier. Les Chachamim m'ont instauré qu'il faut prêter, même si après tu devras le repurifier, pour éviter les marloquettes. Donc dire oui, pour qui elle se prend, elle ne prête pas. Vous savez, surtout les femmes, vous voyez pourquoi on parle de femmes, parce que les femmes, elles parlent encore plus que les hommes. Ou boreret, vetochenet, ou marquedatima. Pas seulement ça. La Mishnah nous dit que non seulement il faut lui prêter, mais on a le droit et elle doit l'aider à tamiser, à moudre, à cuire, etc. Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Bien que c'est possible que c'est quelque chose sur lequel le maaser n'a pas été prélevé. Pourquoi il faut aider Mipnei Darkei Shalom? Pour montrer qu'on est bien avec tout le monde et peut-être qu'ils feront le chouvin un jour. Aval, Mishiteti Lamaim Lotigaima, Lifishen Machaziki, Medovra Avera. Mais encore une fois, on ne peut pas le faire activement. Ça veut dire quoi? On conclut avec ça. Si il y a eu un contact avec de l'eau, c'est-à-dire dès qu'il y a eu le contact avec de l'eau, par exemple, on a tamisé, d'accord, on a tamisé, on a fait de la farine, donc on a moulu, on a tamisé, on a fait etc. Et après on met de l'eau. Dès qu'il y a un contact avec de l'eau, c'est là que l'impureté est passable. C'est là que l'impureté peut passer. Dès que l'impureté peut passer, là on dit à la Aïcha de travers, on dit à la femme donc du travers, mais c'est une technique, c'est celle qui fait attention à l'impureté, on lui dit là tu t'arrêtes. Parce qu'on n'a pas le droit de se rendre impur, d'accord? On n'a pas le droit de se rendre impur activement, j'ai envie de dire. Ça veut dire de manière, en faire exprès de se rendre impur. Donc là, on lui dit, tu t'arrêtes. Jusqu'à là, tu poses pas de questions. Tant que tu n'as rien vu, d'accord? Comment ils disent? Pas vu, pas pris. D'accord? T'as pas vu, tu sais pas ce qui s'est passé, tu touches. Mais dès que tu vois qu'il y a de l'eau, et que là, maintenant, tu sais que certainement, tu vas devenir impur, là, tu t'arrêtes. Le Kulam, le Amro, la Mipnei Darkei Shalom. Et tout ce qu'on a dit, c'est seulement Mipnei Darkei Shalom, c'est pour la bonne entente. Donc enfin, deux dernières choses que dit la Mishnah. Machazikim et des goyim bishvit, ça veut dire que la septième année, quand il y a des goyim qui travaillent, d'accord, il faut leur dire Chazak, continue à travailler, bien que nous on ne travaille pas, continue à travailler parce qu'il faut bien manger. Donc c'est un peu une mitzvah, d'accord, qu'on a l'habitude de faire. C'est pas de dire oui, vous savez, nous on s'arrête la septième année de travailler pour que la terre repose. Et ce serait bien que vous aussi vous vous arrêtez pour que votre terre se repose. Non, on fait pas ça chez nous. C'est une mitzvah qu'on a reçue personnellement. Et quand un goy travaille, non seulement qu'on ne lui dit pas fais comme nous, mais on lui dit vas-y. D'accord ?
Pour nous.
On peut voir ça comme ça aussi. Et donc on a dit deuxième chose, Veshualim, Bishlomim, Tedarke Shalom. D'accord ? Et on dit bonjour à un goy, Tedarke Shalom par politesse. Alors écoutez bien. C'est sûr qu'il faut dire bonjour à un goy. Nous dit la Gemara dit, mais c'est sûr qu'il faut dire bonjour à un goy. Qu'est-ce que nous apprend la Mishnah ? C'est évident. La Gemara dit qu'on parle ici d'un cas, écoutez bien, c'est très intéressant. On parle d'un cas que c'est le jour de la fête des Goïm. Le jour de leur fête, la fête d'Avodah Zarah, par exemple, je sais pas moi, le 1er janvier. D'accord ? Le 1er janvier. Et le fait de dire bonjour à un Goï, de le saluer, d'accord, de saluer, ça voudrait dire que bon, tu dis je vous salue. Voilà, c'est un peu comme si tu dis bonne fête. Donc on aurait pu penser qu'on peut pas le faire. Que dis, attends, ce jour-là, tu dis pas bonjour, tu fais bonjour de la tête peut-être, mais tu dis pas bonjour. Ouais. Tu salues pas la personne, tu demandes pas bonjour, comment allez-vous, c'est le jour de sa fête aujourd'hui, c'est le jour de l'Avodah Zarah. Bon, les Chachamim ont instauré qu'on demande quand même comment ils vont, mais finir d'Arkei Shalom, pour éviter, c'est en plus les jours de l'Avodah Zarah, ils sont très chauds les goyim, ils sont capables de faire n'importe quoi. Donc vous venez d'Arkei Shalom, pour la bonne entente, on demande bonjour, bonjour, comment allez-vous. Alors sachez, pour finir avec ce que M. Bismuth a dit, alors, l'histoire de bonne fête, d'accord, moi j'avais demandé à un rave. Quand on était, je me rappelle à l'époque, quand j'étais à New York, on faisait Muftzaïm, donc on faisait Muftzaïm le soir, dans les rues de New York, pour donner aux gens les bougies de Hanouka. Et ça tombait, voilà, ça tombait en parallèle avec leur fête. Et bon, donc vous savez, on demande aux gens s'ils sont juifs, et quand ils vous disent non, donc bon, d'habitude on leur dit bonne journée, bonne soirée, mais si c'est leur fête, on a demandé, est-ce qu'on peut dire au Rav, est-ce qu'on peut dire, pardon, au Goy, bonne fête. D'accord? Le Rav a dit, on peut.
Parce que c'est fête de Chanouka.
D'abord, il a dit parce que... Non, pas seulement ça. D'abord, il a dit parce que c'est la fête de Chanouka. Et il m'a dit, même si c'est pas la fête de Chanouka, il m'a dit, aujourd'hui, la fête, même si à la base la fête a été instaurée par des goyim, c'était de la Avodah Zarah, mais aujourd'hui, la fête, quand les goyim, ils disent... D'accord ? Quand les goyim, ils disent Happy Holiday, même quand les goyim, ils disent Happy Christmas, d'accord ? Même quand ils disent Joyeux Noël, bon, on le dit pas, on évite, mais théoriquement, même ça, on pourrait dire, parce que... Noël, c'est plus devenu une fête, d'accord? C'est plus une fête qui a une connotation religieuse. C'est devenu une fête, c'est une fête nationale, d'accord? Mais bon, alors il m'a dit, on dit pas Happy Christmas, d'accord? Donc c'était à New York. On dit pas Joyeux Noël, mais on dit bonne fête. Bonne fête, on peut dire, il n'y a aucun problème. D'accord? Voilà, donc pour ceux qui ont des magasins, etc., quand ça arrive les fêtes, on peut dire bonne fête, bonne année, il n'y a pas de problème. Bonne année, c'est sûr qu'on peut dire.
On peut mettre des
Bon, on n'ira pas jusqu'à là. Voilà. Ça reste ici.